transition, agir ensemble vers une pédagogie éco-responsable, citoyenne et solidaire.
Bienvenue à toutes et à tous. Merci de nous retrouver sur ce nouveau podcast réalisé par le réseau Prof en Transition dans le cadre de notre initiative L'Océan en Partage. Source première de vie, l'océan est un espace sauvage, libre, mythique et mystérieux, appelant au songe et à la rêverie. Ses flots tissent des liens entre les terres et les peuples. La connaissance et la sauvegarde de l'océan sont centraux afin de favoriser un horizon désirable pour les générations à venir. Apprenons l'océan dans nos classes par le prisme de ses reflets, géographiques, scientifiques, historique, artistique ou encore littéraire, pour que vive sereinement et durablement cet océan en partage. Aujourd'hui, retrouvons Joe Le Guen, marin breton et expérimenté de 73 ans et demi. 500 ans après Magellan, Joe part dans le sillage du navigateur portugais pour un tour du monde de 2 ans à la voile et en solitaire. L'occasion pour Joe de nous raconter la grande histoire avec ce tournant du 16e siècle, où la mondialisation et les inégalités nord-sud émergent, mais aussi la petite histoire, la sienne, avec au cœur la mer, le voyage, les joies et les peines, les espoirs et les doutes. Naviguons avec Joe pour transmettre à nos élèves le goût des espaces, la passion des horizons et la curiosité d'apprendre. Bienvenue à bord du voilier Juan Elcano et du projet Sillage, à suivre ici et sur le site sillage.org. Et bonjour Joe.
Salut Fred, ça va bien?
Et toi, comment vas-tu à 2 jours maintenant de ton départ?
Ah bah c'est un peu chaud à faire, évidemment. On finit de bricoler sur le bateau, il y a toujours des rangements à faire, des petits trucs à revoir, etc. etc. Mais on arrive au bout du bout là maintenant, c'est bien.
Et oui.
Donc normalement j'ai pas encore eu le temps dans la météo ce soir, mais a priori c'est bon pour vendredi midi, enfin vendredi en milieu de journée quoi.
Vendredi
enfin,
midi.
Sur l'eau.
Et oui, enfin être sur l'eau, tu as raison. Donc là, on est mercredi soir, donc vendredi midi, dans à peine 2 jours, tu prends la mer. Alors j'ai quelques petites questions à te poser avant ton départ. C'est des questions qui ont été écrites par mes élèves, parce que donc je suis enseignant dans les Landes avec des élèves de CM1, CM2, donc des élèves de 9-10 ans. Ils vont suivre le projet. Et on a quelques petites questions pour toi. Alors, rappelons Joe, mais ceux qui te suivent le savent, que donc tu vas faire le tour du monde à la voile sur les traces de Magellan. Tu vas mettre 2 ans. L'objectif est de rentrer le 5 ou 8 septembre, j'ai oublié.
Alors, le 6.
Ah, tu vois, le 6 septembre, entre les deux, quoi. Le 6 septembre 2022 à Séville, 500 ans après Fernand de Magellan. Alors, j'ai une question d'Anaïs.
C'est pas Fernand de Magellan. Fernand de Magellan s'est fait tuer aux Philippines. Fernand de Magellan n'a pas fait le tour du monde. Les gens croient ça, mais il n'a pas fait le tour du monde. Il s'est fait tuer lors d'un combat aux Philippines.
C'est vrai, c'est vrai. Et d'ailleurs, je le sais, je l'ai expliqué aux élèves. Mais ça, on le découvrira un petit peu avec toi lors de l'aventure, parce que le but, c'est aussi de déconstruire beaucoup de choses autour de Magellan et du personnage. Et donc, le bateau s'appelle Juan Elcano, parce qu'effectivement, c'est ce capitaine-là et un esclave, hein, c'est toi qui me l'as raconté, Enrique, qui ont fait, entre autres, le tour du monde. Alors, j'ai une question d'Anaïs qui nous demande pourquoi veux-tu faire ça, Joe?
Eh ben, je veux faire ça parce que j'aime naviguer, parce que ça fait longtemps que je ne suis pas allé aux mers, parce que j'ai pas encore fait le tour du monde, et parce que je suis vieux, et que dans 5 ans, je serai encore plus vieux, et que je pourrai certainement pas m'engager dans un projet pareil. Et comme maintenant je me sens en bonne santé, eh ben, je me dis, voilà une idée qu'elle est bonne de faire le tour du monde sur les traces de Magellan, puisque voilà. Et c'est comme ça que c'est parti.
Et oui.
Voilà. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer d'en parler à des profs, pour qu'ils en parlent aux enfants, comme ça les enfants pourront me suivre durant l'année scolaire, ils pourront parler d'histoire, de géographie, etc. etc. Voilà.
Oui, c'est un projet précieux pour nous en classe, je le répète, et c'est pour ça que je me suis engagé auprès de toi à le faire vivre auprès des enseignants et des élèves. C'est un projet qui réunit de l'histoire, de la géographie, des sciences. On peut imaginer plein de prolongements possibles, et évidemment aussi de l'enseignement à la citoyenneté, à l'éco-citoyenneté via la protection des océans, aussi à la citoyenneté par rapport aux droits de l'homme dont tu nous parleras lors du projet. Une question de Martin maintenant. Comment as-tu eu l'idée de ce projet?
Eh bien, en fin de compte, j'ai voulu monter un projet de dérive à travers l'Atlantique en remorquant un conteneur autour duquel la vie se serait développée pour observer le développement de la vie justement dans un océan, et puis on profitait pour faire des mesures sur la pollution de l'air qu'on pouvait mesurer et de l'eau bien entendu,
oui.
Faire des relevés de papier, et je n'ai pas réussi à monter ce projet, donc pour sortir un peu de ce projet, je me suis mis à bouquiner, et évidemment des bouquins de mer comme ça, et tout d'un coup je me suis dit qu'entre Magellan, Vasco de Gama, Américo Vespucci, tout ça, je ne savais pas très bien qui avait fait quoi et dans quel ordre. Et je me suis mis à travailler un peu le sujet, et j'ai découvert le voyage de Magellan, et aussi que ça va faire 500 ans que ce voyage, ça fait 500 ans que ce voyage était en cours, et je me suis dit, tiens, ben voilà, un truc à faire, c'est sympa.
C'est sympa, et alors de tous ces navigateurs-là, c'est Magellan qui a retenu ton attention?
Ben, disons que les autres, ils ont fait, mettons, comme Christophe Colomb a traversé l'Atlantique, Vasco de Gama est allé aux Indes, enfin en Inde en passant par l'Afrique, et Magellan n'a pas fait le tour du monde, mais son expédition, un des bateaux de son expédition a fait le tour du monde, c'était le premier tour du monde dans l'histoire de l'humanité.
Oui.
C'était la première fois que quelqu'un partait d'un endroit et faisait le tour de la planète et revenait au même endroit, parce qu'à cette époque-là, il ne savait même pas que c'était possible.
Oui, prouvant d'ailleurs, alors, il faudrait qu'on affine tout ça et on le fera lors du projet, je m'y engage, prouvant d'ailleurs donc que la Terre est ronde, hein, soutenant les thèses des scientifiques de l'époque qui n'étaient pas forcément soutenues par tout le monde.
Ben, disons que en gros, si. En fait, bon, les érudits, parce qu'il ne faut pas oublier que tout le monde n'avait pas la chance comme aujourd'hui d'aller à l'école, c'est d'apprendre des choses. Mais les érudits, ceux qui avaient la chance de pouvoir apprendre, parce que c'est une chance toujours de pouvoir apprendre, il ne faut jamais oublier ça, même à n'importe quel âge, eh bien, ils savaient que la Terre était ronde. Et l'Église aussi, qui était très puissante à l'époque, était d'accord là-dessus. Par contre, ce qui était la théorie obligée, obligatoire, il était interdit de penser autrement, c'était que la Terre était immobile dans l'espace et que c'était le Soleil et les étoiles qui tournaient autour de la Terre. Et en fin de compte, il n'y a pas de hasard, pendant que Magellan fait son voyage, le Polonais Nicolas Copernic démontre qu'en fait, dans sa théorie, que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non pas le Soleil autour de la Terre. Mais il a fallu quasiment 2 ou 3 siècles à l'Église catholique pour admettre cela, et entre-temps, il y a des gens qui ont été torturés, brûlés, emprisonnés pour avoir dit effectivement, et donc Galilée qui n'a pas été brûlé parce qu'il était très copain avec le pape, mais autrement, et pourtant elle tourne, donc c'est une époque fantastique, et mais à ce moment-là, ils ne connaissaient pas les contours de l'Amérique, ils ne savaient pas qu'on pouvait en faire le tour, ils ne connaissaient pas l'océan Pacifique ni sa largeur, donc ils savaient, les érudits savaient que la Terre était ronde, mais de là à en faire le tour, personne, et Magellan non plus, c'était pas son objectif du tout, personne n'avait envisagé de faire le tour du monde.
Et oui, parce que tu as raison, donc c'est toutes les théories autour de l'héliocentrisme et du géocentrisme qui sont très intéressantes à étudier, ce rapport entre les sciences et la religion, hein, et les choses qu'on veut faire dire aussi à la science à un moment donné. Et je te rejoins sur un point, c'est que... c'est vrai que ne connaissant pas les contours de l'Amérique, et quand on connaît aujourd'hui la place que prend entre le nord et le sud ce continent, c'est pas si évident à la fois de le contourner par le nord, à l'époque je pense quasi impossible, et par le sud, le passage finalement existe, mais il faut aller le chercher bien au sud, quasiment au nord de l'Antarctique finalement.
Tout à fait. Et le plus beau de ça, c'est que le fameux détroit de Magellan qu'il a découvert, donc ce passage au sud de l'Amérique, parce qu'il n'a pas été jusqu'au Cap Horn pour faire le tour du continent lui-même, il a trouvé ce passage et il a réussi à... Donc, et ce passage porte le nom du détroit de Magellan. Mais c'est une route qui n'a jamais été exploitée quasiment commercialement, quoi, parce que c'était évidemment très loin. Et il y a eu, lors du développement de l'Amérique, les trois mâts qui partaient de la côte est, donc de New York pour résumer, et qui faisaient le tour de l'Amérique par le Cap Horn pour amener des hommes et du matériel en Californie, où il y avait le développement avec l'or qui était trouvé, etc., etc. Parce qu'à l'époque, on ne pouvait pas traverser les États-Unis parce que les Indiens n'avaient pas encore été exterminés. Et donc, en fin de compte, le chemin de fer avait du mal à passer, donc les trois mâts faisaient le tour de l'Amérique. Mais le fameux détroit de Magellan n'a jamais été exploité en tant que route commerciale.
C'est intéressant, ça aussi, en classe, à étudier et ces routes commerciales, comme tu dis, de parler aussi aux enfants des canaux de Suez et de Panama, hein, qui ont fortement réduit les temps de route maritime, qui n'existaient pas, évidemment, à l'époque. Et voilà, donc beaucoup de choses qu'on aura le temps d'explorer durant cette expédition, qu'on fera d'ailleurs périodiquement, puisqu'on s'appellera toi et moi, et on enregistrera les conversations qu'on mettra sur le site sillage.org. J'ai une question de Kenzo maintenant. Est-ce que tu as déjà fait ça, Joe?
Non, je n'ai jamais fait ça. J'ai pas mal navigué. En fait, j'ai fait aussi, comme les trois mâts, en fait, j'ai fait New York-San Francisco à la voile, par le Cap Horn, sans m'arrêter, avec une jeune femme qui est devenue la mère de trois de mes enfants. Et donc, c'est le plus grand voyage à la voile que j'ai fait. C'est New York-San Francisco par le Cap Horn. Pour un navigateur, c'est un parcours mythique.
Oui.
Autrement, j'ai traversé des océans, tout ça à la voile ou à la rame aussi, bien sûr. Mais je n'ai jamais fait le tour du monde. Donc, il est temps, avant de passer de l'autre côté de je ne sais pas quoi, aller je ne sais pas où, de le faire avant de disparaître de cette terre. C'est tout, voilà.
Peut-être du fleuve mythique, le Styx, comme te diraient les Grecs. Hein, il y a de l'eau peut-être derrière aussi.
On n'en sait rien.
Personne n'est revenu nous raconter ça. Une question de Léna maintenant qui est intéressante, je trouve. Pourquoi tu pars seul, Joe?
Alors, j'aurais pu ne pas partir seul. En fait, ma compagne, Claudine, aurait pu venir avec moi, mais c'est une femme de terre. Et puis, elle n'envisageait pas toutes ces longues traversées. Elle est de la terre, elle n'est pas de la mer. Comme quoi, en fin de compte, on se complète là-dessus.
Oui.
Et donc, je pars tout seul, mais franchement, j'adore naviguer tout seul.
Ah.
C'est magique. Je trouve que dans la vie de chacun, chacun devrait passer 2 ou 3 mois tout seul. C'est-à-dire tout seul, ça veut dire tout seul, quoi. Ça veut dire pas de boulangerie, pas de bureau de tabac, rien. 3 mois quelque part tout seul.
Et bien ça, c'est tu parles beaucoup de l'Amérique et tu es quelqu'un qui aime les livres. Henry David Thoreau dans Walden ou La vie dans les bois fait ça. Hein. Il part tout seul 2-3 mois, je crois, à l'étang de Walden.
Oui,
et c'est là où il écrit un livre qui d'ailleurs est très difficile à lire. C'est parmi les livres qui me sont les plus difficiles à lire. Pourtant, j'en ai lu pas mal. Très intéressant puisqu'il a un regard sur toute l'époque, sur tout ce qui se passe aux États-Unis à l'époque. Mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé aussi, toujours en couple ou accompagné. Et c'est vrai je pense effectivement qu'on perd une partie du regard sur soi-même, sur le monde, sur la rencontre également. Être seul, et c'est plus facile de rencontrer aussi naturellement les gens. Bon, toi, tu vas pas rencontrer beaucoup parce que rappelons aussi qu'avec la situation sanitaire, tu vas pas toujours pouvoir t'approcher dans les eaux territoriales, si je me trompe pas. Et là, par exemple, là, au départ de France, ensuite, tu vas longer les côtes espagnoles, portugaises, tu vas être en eau internationale à chaque fois?
À chaque fois, oui.
Et donc, le prochain contact avec des humains, c'est prévu pour quand, tu crois?
Alors, je vais essayer d'aller directement au sud de l'Argentine, dans un port qui s'appelle Puerto San Julián, San Julián, il y a une mutinerie dans l'expédition de Magellan, c'est un endroit qui est très très important dans le voyage de Magellan, et je ne me vois pas aller directement dans l'étroit Magellan sans m'arrêter à Puerto San Julián pour revoir la plage, un peu toujours déserte, où tout ça s'est passé.
Oui.
Donc ça fait un voyage de 10 000 km à peu près, sachant que en fait un voilier comme le mien marche à peu près au pas d'un bon marcheur, quoi, on va dire 7-8 km/h de moyenne. Donc il y a en ligne directe, ça fait 10 000 km, donc ça fait au moins 12 000 km sur le... Ce qui va me demander à peu près 2 mois et demi, 3 mois environ, ça dépend de pas mal de choses. En tout cas, j'espère vraiment faire ça d'une seule traite. J'ai vraiment envie de m'arrêter nulle part, parce que je ne saurais pas quoi y faire. Tandis que quand vous êtes en bateau et quand vous êtes seul... au bout de 3 semaines, 1 mois, vous êtes déjà dans un autre monde, et donc briser en fait ça, c'est vraiment dommage, parce que le deuxième mois va encore être beaucoup plus riche que le premier, vous voyez, et le troisième encore plus riche que les 2 premiers. Donc plus ça dure, plus c'est bon. Je vais quand même essayer d'arriver là où je dois aller, quand même, faut pas exagérer, je vais pas m'arrêter au milieu de la mer pour contempler les cieux, le vent, et les vagues et les poissons volants.
Tu pourras, tu en auras le loisir. J'ai plein de questions à des enfants ce matin sur mais de nombreux sujets, mais qu'on évoquera au fur et à mesure du voyage. Tu as répondu à la question de Lucas qui était: quelle sera ta première escale, donc ce port en Argentine, donc tu me dis, ou au Chili? En Argentine.
C'est juste au-dessus du détroit de Magellan, ça s'appelle
D'accord.
Puerto San Julián.
Et est-ce que tu crois que tu pourras emprunter l'étroit de Magellan, ou la situation sanitaire te permettra pas de rentrer?
Oui, j'ai reçu un message de Punta Arenas.
Ah.
Alors, pour, pour le moment, ils me disent que je peux venir, mais que je serai en quarantaine 14 jours. Ce qui m'a fait marrer, parce que si je viens de France et que je reste 3 mois en mer,
oui.
Je sais pas pourquoi je serai en quarantaine, quoi.
Oui, c'est vrai, tu auras déjà purgé ta quarantaine.
Ils disent ça parce que c'est normal, parce que il y a le Covid là-bas aussi, puis qu'ils prennent des mesures. Mais je suis persuadé que si j'ai le bonheur et la chance d'arriver à Punta Arenas, venant de France, quoique là, non, du coup, je viendrai de Puerto Sandrulian, quoi.
D'accord.
Mais peut-être que je serai en quarantaine, j'en sais rien. En fait, on verra bien.
On aura le temps d'en reparler. On sera donc.
On aura le temps d'en reparler, oui, bien sûr. Oui.
On sera donc, finalement, tu dis 3 mois, donc on sera peut-être à la nouvelle année. C'est les horizons qu'on peut se donner. J'ai une question d'Adam qui il te demande de façon assez cash, est-ce que tu as peur, Joe?
C'est une bonne question, il faut la poser, il ne faut pas avoir peur de dire qu'on a peur ou pas peur. Enfin, je ne sais pas s'il y a des gens qui n'ont pas peur, ils ont peur de rien, je ne sais pas si ça existe ça. En tout cas, moi j'ai peur d'une chose aujourd'hui, c'est j'ai peur de ne pas pouvoir partir ou de m'arrêter de suite pour un problème technique ou de santé ou je ne sais pas quoi, de ne pas pouvoir aller au bout de cette aventure. Quoi. C'est un peu, j'ai une très grande peur de ça, vous voyez, parce que on ne sait jamais ce qui peut se passer, et puis est-ce que tout est bien préparé, est-ce que, on ne sait jamais. On fait de son mieux pour se préparer, mais moi ça fait beaucoup de temps que je parle, et maintenant si je devais m'arrêter au bout d'une journée ou deux heures, ou je ne sais pas combien, ou trois jours, ce serait honnêtement, personnellement, une catastrophe avec un K majuscule. Donc, j'ai peur de ne pas partir, j'ai peur de ne pas faire cette route pour des tas de raisons qui m'échapperaient. Voilà.
Ouais, bien sûr, mais c'est bien d'ailleurs, oui, tu as raison de d'avouer ses peurs et plein de choses dans le genre. Ça rejoint une question une question de Maëlys qui dit, mais comment fais-tu en cas de problème? C'est-à-dire, il se passe quelque chose qui va pas, que ça, les enfants, ça les a pas mal interpellés. Qu'est-ce, toi, seul en mer, qu'est-ce que tu fais?
Bon, alors maintenant, on est en 2020, donc maintenant, il y a une technologie qui permet, en fait, d'avoir le contact avec la Terre. C'est-à-dire que j'ai un téléphone par satellite qui me permet de communiquer. Sur ce téléphone, j'ai une fonction SOS. Si jamais j'ai un problème, donc là, il y a des secours qui se déclenchent un peu automatiquement, c'est peut-être pas le mot, mais enfin rapidement. Et j'ai enfin un radeau de survie au cas si le bateau est écoulé, mettons par un orque polar, qui m'en vaudrait beaucoup. Donc j'ai un radeau de survie qui me permettrait, si l'orque polar m'a le temps d'ouvrir, de rentrer dedans, et voilà. Donc maintenant, voilà. Après, il y a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, mettons un problème de santé assez grave, même si vous pouvez prévenir les gens que vous en avez un, aussi bien. Même si un cargo arrive, il peut rien pour vous, quoi. Ça peut arriver. Enfin,
oui, évidemment, c'est pas ce qu'on te souhaite, mais ça a été dans les questions des enfants, preuve qu'ils mesurent bien l'aventure que ça peut être.
De toute façon, ils posent des bonnes questions, et puis ils ont raison de poser aussi les vraies questions.
Oui.
As-tu peur? Qu'est-ce que tu fais en cas de problème? C'est vraiment des vraies questions. Quoi.
Alors, il y avait une question auxquelles de Soen et Julie, je la cite. As-tu un bateau de secours? Donc oui, tu as répondu. Alors c'est un radeau de survie. C'est un radeau de survie. C'est pas quelque chose qui est fait pour aujourd'hui. De toute façon, si tu accostes avec le voilier, tu peux accoster partout. Il n'est pas question d'accoster à la chaloupe. C'est fini ça.
Ah c'est fini. Ouais. Non, c'est un radeau de survie pour au cas où le bateau coulerait, quoi, par exemple.
Bien sûr. Et on te le souhaite pas. Une question collégiale. Alors celle-là, elle est beaucoup revenue. Elle est très pratico-pratique. Comment as-tu fait tes provisions?
Alors je vais répondre un peu trivialement, au pif. Enfin, sachant que j'ai déjà fait des traversées et puis que en solitaire aussi, et puis à la rame, tout ça, donc j'ai un peu une idée de la nourriture, mais j'en sais rien. En fait, j'ai pris un peu de tout et pas mal de riz, de la semoule aussi, comme ça. Et comme ça, au moins, avec le riz que j'ai embarqué, je mourrai pas de faim. Quoi. Et puis c'est marrant parce que comme je vais aller sur la route de Magellan, je ne peux pas ne pas penser aux conditions dans lesquelles il naviguait à l'époque. C'était horrible, atroce. On n'est plus capable de vivre ça maintenant.
Oui.
La nourriture, c'était même pas la peine d'y penser, de l'eau croupie. Enfin, quand je vais me plaindre de ne pas avoir un petit plat bien mijoté, ben, quand j'aurai seulement du riz à manger, je pourrai toujours penser à ces types qui étaient là 500 ans avant moi et qui, passez-moi l'expression, mais crevaient la dalle. Ils sont bien là, qui sont morts du scorbut. Ils sont peut-être pas morts de faim, mais pas loin, parce que ils ont, vous savez, pour protéger les voiles, il y a des cuirs, il y a des vergues dans le Pacifique. Ils avaient tellement pas à manger qu'ils défaisait le cuir de ses voiles et qui le suçait, je veux dire, il le mâchait, vous voyez, pour avoir la fin était atroce. Et donc quelque part, moi j'ai du riz, et puis au moins du riz. Enfin, j'ai pas que du riz, rassurez-vous, j'ai pris quelques petites gâteries, genre j'ai des dattes, des concentrés sucrés, j'ai des trucs, des compotes, du cassoulet, du couscous, tout ça, mais des sardines, du maquereau en boîte et tout. Mais j'ai aussi du riz, donc je devrais ne pas mourir de faim.
Bon, super. Et Aurélie complète la question en disant, vas-tu te limiter? Vas-tu te rationner sur tes ressources ou pas?
Ben, j'en sais rien, parce que je vais contrôler en fait ma consommation au départ, parce que sachant qu'au départ, on mange pas comme un mois après. Au départ, on mange des soupes, des trucs rapides, qui mangent barres de chocolat, tout ça, parce que au départ, faut rentrer un peu dans l'histoire quand même, donc on n'est pas là, on se met pas un repas à table, quoi, c'est évident. Alors, me limiter, j'en sais rien, parce que je vais voir mes stocks et je vais voir comment ils descendent, et puis s'il faut me limiter, ben, j'essaierai de me limiter. Et puis, ben voilà, on verra bien, quoi. Je vais contrôler ça, parce que de toute façon, j'ai que ça à faire, mais contrôler sa nourriture, sa consommation, ses stocks, donc gérer tout ça, ça fait partie de l'histoire aussi, bien sûr.
Et oui, ça fait partie de l'histoire et on la racontera au fur et à mesure de ta traversée, de ton avancée dans cette aventure. Allez, j'ai une dernière question d'Eliott. Et là, ta carte blanche, Joe. Qu'est-ce que tu préfères en mer?
Être en mer. Parce qu'il y a une espèce de vérité, bah, évidemment. Il y a une espèce de vérité en mer, c'est évident. En fait, quand tu es en mer, au large, avec l'horizon autour de toi, en fin de compte, il y a 50 siècles, c'était pareil.
Oui.
Quand t'es n'importe où dans la campagne et tout, il y a 50 siècles, c'était pas ça du tout.
Hein. Ben écoute,
tout a changé obligatoirement, tout a changé.
Cette réponse que tu fais, mais cette réponse que tu fais, quand Eliott t'a posé la question, je me suis demandé quelle serait ta réponse, et je rentrais moi aussi pour rentrer chez moi dans les paysages landais qui sont très ruraux ici où je suis dans le sud des Landes, et je me faisais cette réflexion là, qu'au final pour aujourd'hui avoir un horizon qui 500 ans avant était le même, ben il faut prendre un bateau à peu près.
Il faut aller en mer.
Et pas s'approcher trop près des côtes. Il faut rester sur un horizon, finalement, d'océan à perte de vue.
Absolument. Et là, il y a une espèce de puissance, de magie, de vérité, qui fait que voir la mer, le vent, les nuages, les étoiles, la nuit, j'adore être dehors la nuit. Voir dans le silence, enfin, quand on est en mer, il y a toujours du bruit, quoi, le bruit du vent sur les voiles, le bruit de l'eau sur la coque du bateau, mais ces bruits, vous les intégrez totalement. Et donc, il y a, dans cette espèce de bruit, il y a un silence, quoi, il y a une espèce de paix, en fait, de paix, et de puissance, quoi, voilà, c'est la paix et la puissance, parce que la mer, c'est chaud parfois, enfin, quand je dis c'est chaud, c'est-à-dire ça craint des fois, quoi, enfin, on fait pas le beau, on fait pas le fier, on serre les fesses parce que ça bastonne. Mais il y a une vérité, des fois c'est les grandes orgues, des fois c'est la paix totale, c'est génial. Enfin, être en mer, c'est un spectacle qui n'est jamais le même. Vous savez qu'est-ce qu'ils font les vieux marins qui ont passé leur vie en mer?
Non.
Quand ils sont en retraite et qu'ils sont vieux, eh ben ils vont au bord de la grève, au bord de machin, ils s'assoient sur un banc et ils regardent la mer.
C'est une image d'Épinal, mais en fait elle est vraie.
C'est une image d'Épinal, mais elle est sacrément vraie, cette image d'Épinal. La mer, en fait, je disais ça soit à mon frère, mais même les gens qui sont pas du tout marins, en fait, et qui voient la mer, ben, ça les interpelle, quoi, c'est sûr. Et n'oublions pas que dans notre sang, il y a le même taux de sel que dans l'océan. Ah, nous sommes aquatiques. Notre sang contient la même quantité de sel qu'un litre d'eau de mer. Un litre de sang qu'un litre d'eau de mer. Et ça, c'est valable même pour les mecs qui habitent au fin fond des Landes.
C'est vrai. Où il y avait la mer avant, entre autres. Mais la mer était à peu près partout. Et la vie ancienne, toute vie, vient de la profondeur des océans.
On est sur une espèce d'île, hein, dans l'espace, parce qu'on n'est pas capable de vivre en dehors de l'espace. Même s'il y a deux ou trois mecs qui, avec Elon Musk, vont partir faire un tour sur Mars, ça n'a jamais que quelques mecs. Hein. Donc, quelque part, c'est pas une solution pour nous immédiatement, disons, dans un avenir même assez lointain. Donc, on est sur un îlot dans l'espace, qui se balade à fond la caisse dans l'espace, en tournant autour de son soleil, qui lui-même se balade à fond la caisse, en tournant autour du centre de sa galaxie. Enfin, c'est un truc de malade.
Et il y a des milliards de galaxies dans l'univers.
Et nous, on s'en fout de notre truc. Alors que même le mec le plus borné, donner, enfin, je ne voudrais pas dire du mal de Donald Trump, mais il est quand même, c'est un exemple. Lui, il a besoin d'air pour respirer, quoi. Parce que s'il peut plus respirer, s'il a plus d'air, le mec, il respire plus.
Oui.
Même s'il est blindé, même s'il joue au golf toute la journée, s'il a plus d'air, il est foutu.
Ne critique pas Donald Trump, c'est ton aîné. Il a 74 ans, si je me trompe pas, et tu en as 73 ans et demi.
Ben ouais, donc je lui donne respect parce qu'il est plus vieux que moi.
Et il est un peu plus vieux que toi. Ben écoute, Joe, je pense qu'on a un peu fait le tour, on a débordé, mais on est comme ça, on débordera allègrement. Bon, quand on aura le téléphone satellite, donc l'idée c'est de pouvoir faire des petits entretiens assez courts parce que tu as un forfait qui est limité et tant mieux, parce que le but c'est pas que tu restes connecté à plein tube. On l'est déjà assez ici sur Terre. Les gens peuvent te suivre donc sur ch.org, ils peuvent s'abonner à ta newsletter, franchement je leur conseille puisque ça leur donne accès à tes mots, à tes textes qui sont... Je sais pas, comme toi, quelque chose de quelque chose, pardon, quelqu'un, les mots, hein, les mots sont quelque chose que tu portes de très, de cash, de, pas de sauvage, mais de brut, de, il y a quelque chose d'assez, tu parlais de la mer qui était puissant, il y a une puissance dans tes mots parce que, voilà, tu as une, cette expérience des paysages et de l'aventure. Donc, je suis très heureux de pouvoir les mettre en lecture également sur les podcasts. On enregistrera nos conversations téléphoniques et on essaiera de donner pas mal de support pédagogique aux collègues enseignants et aux élèves qui... J'en profite également pour dire que les classes qui suivent le projet peuvent écrire par mail à contact@sih.org et qu'on se fera un plaisir, Morgan, ton fils et moi, de te transmettre les éventuelles questions par mail ou comme on fait là par téléphone.
Ok, c'est super. Ben, en fait, c'est vrai qu'une traversée en solitaire, c'est une traversée en solitaire, mais en fin de compte, avec l'intérêt, c'est aussi que d'autres gens en profitent, que ça puisse être utile à d'autres gens, et puis que ben, si des profs peuvent s'en servir pour en parler à leurs élèves, et des élèves peuvent s'intéresser à ça, ben, c'est super. Donc, du coup, les traversées en solitaire ne sont pas vraiment solitaires, quoi.
Ben, Joe, merci en tout cas pour cet entretien.
Merci. Merci à toi, Fred, et salut à tout le monde.
Ce podcast vous a plu ? Vous souhaitez suivre la belle aventure de Joe, retrouver ses textes et le positionnement de son bateau, lui poser des questions ? Cap sur le site sih.org. Et pour être sûr de ne rien rater, pensez à vous abonner à la newsletter du capitaine. C'était Frédéric Essa pour le réseau Prof en Transition. Je vous invite à venir échanger avec les 25 000 Profs en Transition sur notre groupe Facebook. Prof en Transition est aussi sur Instagram et Twitter. Enfin, pour retrouver nos ressources, notre site profentransition.com. À très vite, pour que vive auprès de nos futurs éco-citoyens, au sein de ces micro-sociétés que nous appelons écoles, une transition écologique et sociale, porteuse d'espoir partagé et de sens du bien commun.